Rousseau à Boulevard 102.1.
Midi bien tapant sur Québec. Émission N'en jase sur Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal CV. 418-971-1021 pour nous rejoindre. On adore vous lire. Il y a énormément d'actualités aujourd'hui, encore une fois, donc n'hésitez pas à commenter, on va vous lire. C'est clair qu'on vous lit. On va vous parler de vous en ondes. On va vous réécrire aussi. Peut-être pas tout le monde, mais on essaye de le faire au maximum. BLVD.fm pour la web radio. Vous allez retrouver également l'essentiel de nos meilleurs moments. BLVD 102.1, l'application sur App Store et Google Play Store. Et twitch.tv/BLVD/FM. Pascal CV, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Jeff Fortin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous voulez aller sur Twitch...
J'ai ma petite Twix!
Je suis entourée de deux cartes de mode aujourd'hui.
Ben ouais.
Toi, t'es comme, je sais pas, petit...
J'avais le goût.
Polar avec une belle petite chemise, moi. Beau bonhomme. Puis on a notre Antonine Iaccarini aussi, belle femme. Aujourd'hui, vous avez des kits d'enfer.
Comment ça, aujourd'hui?
On est tellement de même, hein?
Ben
moi, et qu'on est à Nantes.
Ben non, mais moi, c'est parce que d'habitude, j'ai la calotte des fois, ben je l'ai un peu.
Par en arrière, puis son petit chandail
sportif.
C'est
tout le temps chic.
Mais là, aujourd'hui, je me suis mis beau.
Ça se passe quoi? C'est-tu la politique? Vous êtes en point de presse?
Pas en tout, c'est rien. Moi, j'avais juste le goût de m'habiller comme ça. Je trouve, je te l'ai dit hier, je trouvais ma blonde jolie. Donc, j'ai dit, tiens, je vais me mettre beau, moi aussi.
Ouais. C'est beau, ça. Bravo, ouais, t'es très beau.
Je vais me mettre beau, moi aussi.
Madame Iaccarini?
Moi, je suis tout le temps habillée de même. Il n'y a pas de différence avec d'habitude.
Non, mais je ne sais pas, le petit pantalon, un petit style et tout ça. Toute la saison télévisée a recommencé aussi.
Absolument, mais aujourd'hui, je n'ai pas de télévision. Hein? Alors, parce que quand vous me voyez arriver, tirer à quatre épingles, puis maquillée, puis peignée, puis tout ça, je veux vraiment pas être insultante, mais généralement, c'est pas pour la radio, tu sais. C'est parce que j'ai de la télé après.
En tout cas,
c'est tellement correct.
Mais là, j'ai pas de télé aujourd'hui, alors c'est mon look de radio.
Très belle, merci.
Ah, ben on l'apprécie, Antonine. Vous venez de l'entendre, Antonine Iaccarini, donc on va sauter à pieds joints dans le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, ça va bien?
Très bien. Trop de sujets encore.
Ouais, exactement. Ça va mieux que François Legault, d'après moi.
Ouais, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va mieux que François Legault. C'est la folie des sondages encore.
Oui, exactement. Sondage Somme, Le Soleil, et sondage Léger, Journal de Québec, Journal de Montréal. Fait que on sait que la CAQ est dans le trouble à deux places.
Ouais, bon, il n'y a pas un des deux qui est vraiment meilleur que l'autre. Par contre, celui, le sondage Somme, c'est se concentre sur la région de Québec. Donc,
oui,
vraiment intéressant.
Commençons par celui-là.
Absolument. Donc, c'est un sondage qui a été mené entre le 11 et le 14 septembre. Donc, tout de suite après le remaniement ministériel. Donc, on essaie de voir aussi s'il y a du mouvement, si le remaniement a un effet quelconque sur les électeurs.
Et il y a aussi ce sondage-là qui a été fait pendant que c'est super difficile aux abords des ponts. En pleine construction avec les chantiers, pourquoi on apporte cette attention-là? C'est qu'hier, on a eu en entrevue une partie de ceux qui ont sondé. Puis Antonine, je suis sûre que ça fait partie de ton analyse aussi, puisque dans la grande région de Québec, les enjeux de mobilité sont très forts.
Bien, ces temps-ci, moi, j'habite à Sillery, là. Sortir de mon quartier en ce moment, là, rajouter 20 minutes. Bon, c'est pas la fin du monde. Vous allez me dire, si vous allez faire un tour à Montréal une fois de temps en temps, vous allez pouvoir vous comparer, vous consoler. Cela dit, ces temps-ci, il y a vraiment un impact très, très fort sur l'horaire de tout le monde. Puis moi, je me disais aussi que ça pourrait avoir un impact sur l'élection municipale. Parce que même si, bon, la tête des ponts, c'est plus le MTQ, tout ça, on a une impression qu'à chaque coin de rue, on est bloqué puis que, qu'il y a une entrave. Ça, je me demande si ça peut pas avoir un impact sur les élections municipales qui commencent. Donc, ce sondage Somme, pas de surprise, il y a 83 % des gens sondés qui sont insatisfaits du gouvernement Legault. Sur ça, c'est 51 % qui sont très insatisfaits.
Aïe, aïe, ça veut dire un citoyen sur deux dans la région de Québec est très insatisfait de la CAQ. Antonine, toi qui as déjà été dans les partis politiques, ça ne se remonte pas une pente de même.
C'est difficile, mais en même temps, vraiment, ce qui s'est passé au fédéral l'année passée nous oblige à plus de prudence. Alors, c'est dur.
Bon, ben moi, je vais le dire. Ça ne se remontera pas pour la CAQ.
Parfait. Donc, Jeff se mouille. On parle d'un taux de satisfaction de 12 %. Ben 12 % plutôt satisfait, 2 % très satisfait. Hey, donc 14 %
2 % très satisfait, 51 % très insatisfait.
C'est qui?
Ça, c'est 49
%. Ben, c'est qui le 2 %
C'est le staff de la CAQ et les députés.
C'est-tu la famille?
C'est la famille. Donc, juste vous dire, pour comparer avec d'autres gouvernements qui sont, là, je le mets entre guillemets, en fin de régime, encore de manière très prudente, passer sous la barre des 20 % ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, surtout quand on a été élu avec 90 députés. En 2022. 12 % de plutôt satisfait, 2 % de très satisfait, c'est extrêmement bas. Puis Québec, c'est pas... Si on faisait un sondage à Montréal, ça serait encore pire probablement. Mais Québec, c'était une région qui était fertile à la CAQ.
Bien, normalement, c'est un terreau fertile pour la CAQ pour plusieurs raisons, notamment parce que la CAQ s'est fusionnée avec l'ADQ et à l'époque, l'ADQ avait des excellents pointages ici dans la région de Québec. Là, ce qui met depuis 2 ans, c'est que c'est le PQ. Puis on n'a jamais vu le PQ fort dans la région de Québec. Et là, s'il y avait des élections demain matin, ça serait un raz-de-marée péquiste dans la région de Québec. Comment tu l'expliques?
Ben c'est ça. C'est très surprenant parce que depuis le début des années 2000, le PQ à Québec, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Agnès Maltais a été toute seule pendant des années. Après, le PQ
vraiment?
A été rayé de la carte pendant un bout de temps. Puis, il y a eu cette élection partielle dans Jean Talon, arrivée de Pascal Paradis. Jean Talon, c'était pas la circonscription non plus la plus fertile au PQ. Il l'a jamais eu.
C'était toujours les libéraux avant la CAQ.
Toujours. Donc, il y a ça aussi dans la surprise. Mais une élection partielle comme ça, c'est un cas un peu particulier. Mais là, quand on regarde vraiment la carte avec les projections, on est dans un raz-de-marée péquiste. C'est le PQ qui réussit à incarner davantage de changements. Et il faut dire aussi, Région de Québec, électorat très francophone, toujours un petit peu moins facile pour les libéraux, mais les libéraux ont eu plusieurs comtés à différents moments.
Est-ce qu'on donne ça au PQ majoritairement ou on donne ça à l'insatisfaction caquiste?
C'est les deux. En fait, c'est une dynamique entre les deux. Le PQ a réussi à bénéficier de cette insatisfaction face à la CAQ, mais aussi que les idées nationalistes sont toujours dans le vent, j'ai envie de dire. Les partis de très, très gauche ont de la difficulté. Les partis qui sont un petit peu plus antinationalistes ont plus de difficultés partout, sauf à Montréal, dans certains quartiers. Je vous parle d'un deuxième sondage, c'est le Léger avec le Journal de Québec, qui dit lui aussi que le remaniement n'a rien changé. Là, on est sur la scène nationale, donc on n'est pas seulement dans une seule région. Ce qu'on voit, là, c'est que ce remaniement-là, moi, je pense que ça aurait pu changer quelque chose. Honnêtement, pas on pogne 20 points d'un coup, mais ça aurait pu faire bouger un petit peu l'aiguille, mais on a tellement monté les attentes, on a tellement étalé l'effet du remaniement à l'annonçant d'avance que finalement, c'est sûr, quand on pose la question aux gens, ils répondent que ça change absolument rien, cette affaire-là. Donc, à la question « Croyez-vous que le remaniement va donner un nouvel élan au gouvernement de la CAQ? » 69 % des gens répondent non et 14 % des gens répondent oui. Un 18 % de « ne sait pas » et « refus ». Et sur les intentions de vote, c'est le PQ qui continue de dominer. 38 % pour le PQ, 27 % Parti libéral du Québec, 16 % la CAQ. On a vu un sondage à 11 % récemment, mais ce n'était pas un léger.
Non, c'était un palace.
C'était un palace. Et 11 % Parti conservateur du Québec et 7 % pour QS.
Hey, ça, c'est la mort.
C'est la mort.
C'est la mort de QS à l'heure actuelle. On a voulu se radicaliser encore plus à gauche et c'est ce qui explique. Parlant du PQ, on avait Pascal Paradis en entrevue à Marceau le matin. On a parlé indépendance. Je vous fais entendre. Donc, vous allez être prêt à foncer en campagne électorale avec le thème de la souveraineté du Québec dans le premier mandat.
Bien, la tradition est respectée. Vous me reposez des questions, alors je vous redonne la même réponse. Les Québécois apprécient, je pense, cette franchise, cette honnêteté, ce courage qu'on a de dire « Cette question-là, elle est importante. Elle va être posée aux Québécoises et aux Québécois dans le premier mandat d'un parti québécois comme gouvernement. »
Moi, M. Paradis, j'ai pas le droit de le faire, mais je vais le faire pareil avec vous. Je vous gage 1 $ que vous allez reculer.
Ben, j'espère que vous ne tenez pas trop à votre dollar. J'espère que vous ne l'appelez pas mon précieux, parce que vous risquez de le perdre.
Il ne démord pas, Pascal Paradis. Ça fait 3 fois que je lui pose la question, chaque fois qu'il vient en entrevue. Vous êtes sûr, dans le premier mandat, puis il dit dans le premier mandat. On va-tu vivre un changement ou on y va vraiment all the way, le PQ en campagne électorale, pour dire c'est le premier mandat?
Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils tiennent cette position-là jusqu'au bout. Par contre, s'il y avait une possibilité qu'ils changent d'idée, ils ne vous le diraient pas.
Okay? Non, c'est ça. Hein?
Si c'était François Legault, ils vous le diraient. parce qu'il pense à haute voix. Puis il ouvre des portes. Puis là, je vais peut-être faire un remaniement. Hein, puis
il dirait ouais, ben, je veux pas vraiment faire une blague, mais Cruella.
Mais ça, ça lui nuit-tu, mais admettons, là, une petite parenthèse, justement, de toujours penser à haute voix parce que c'est comme s'il n'y avait pas de. D'engagement sincère qui tentait tout le temps les eaux.
C'est ça que j'allais dire. C'est que, dans le fond, en politique, la tradition... Pourquoi c'était la tradition? Parce que c'était plus efficace. Tant que tu n'as pas pris une décision, tu ne laisses pas planer des doutes. Okay? En communication politique, il faut que tu sois clair. C'est oui, c'est non. Puis tant que tu n'as pas décidé que ce serait oui, par exemple, est-ce que tu te représentes à la prochaine élection? Tu ne dis pas « j'y pense mm-hmm. ». Tu dis « oui, mon intention, c'est de me représenter ». Le jour où est-ce que ça ne te tente plus de te représenter puis que tu es prêt à l'annoncer, là, tu l'annonces. Mais sinon, mm-hmm. tu laisses place à la spéculation. Donc, le PQ, je les crois. Je pense qu'ils sont sincères parce qu'il y a cette impression que cette clarté-là et d'arrêter de traiter la souveraineté comme un boulet qu'on essayait de cacher, qu'on essayait d'alléger tout le temps, mais qui était tout le temps là, on a décidé de s'assumer. Et je pense qu'ils considèrent vraiment que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont sortis de leur torpeur, parce qu'on disait que le PQ était mort il y a 4 ans.
Ben, c'est ce que je pense qu'ils ont raison.
Bon, c'est ça. Fait qu'on continue dans cette voie-là du côté du PQ, puis on parlait, il y a un sondage qu'on a vu qui a été rendu public hier sur le non-désir d'un référendum. J'ai retrouvé des sondages pré-référendums
de 1980. Ah oui,
c'est pareil. Bon, attendez, je vous les sors. Là. Je les avais comme...
Là, on est en 80...
En attendant que tu sortes ça, là, je veux juste rappeler qu'on est dans le caucus Iaccarini. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 avec Antonine Iaccarini. On parle présentement des intentions de vote au provincial. On va sauter aux intentions de vote au fédéral avec Mark Carney qui a perdu quelques points. Mais Antonine, qu'est-ce que ça disait, ces sondages-là pré-référendum?
Je suis en 93. 13. Okay. Donc, on est, tu sais, mettons, ça se pourrait qu'il y ait un référendum dans 2 ans. C'est réaliste si le PQ rentre au pouvoir. Est-ce que... en fait, c'est sur le oui ou le non, là, pas sur le référendum comme tel. On était à 38% pour, 50% contre, 12% d'indécis ou ne veut pas répondre. Donc, deux ans après, il y avait un référendum qui est arrivé presque à 50%.
C'est ça, là, on était à peu près à 36% là, lors des derniers sondages.
Donc, ça ne fait pas paniquer le PQ.
Donc, Mark Carney, la lune de miel, Mark le sauvé, Mark le sauveur face aux États-Unis.
Le Messie.
Bon. Légère baisse, peut-être pas de quoi s'inquiéter, mais on a quand même perdu 4 points au Québec.
Oui, puis c'est le Québec qui a beaucoup contribué à faire élire ce premier
ministre-là.
C'est le
Québec qui a fait élire parce que finalement, l'Ontario, les comtés qui étaient conservateurs sont restés conservateurs.
Exactement. Donc, il y a eu un engouement au Québec pour Mark Carney. Donc, on a une baisse de 4 % par rapport au dernier léger. Si on regarde les intentions de vote, 42 % PLC, 30 % Bloc, 21 % Parti conservateur du Canada, toujours un peu difficile, le Parti conservateur. Mm-hmm. Donc, c'est pas la panique à bord, mais il y a quand même un petit drapeau jaune qui se lève pour Mark Carney. Les attentes sont très élevées, les défis sont énormes, les déficits aussi. Donc, il va y avoir vraiment un défi énorme avec le prochain budget dont on a appris la date hier.
Ben oui!
Ça vaut pas vraiment la peine de commenter, mais je voudrais vous dire...
Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre! On le connaît déjà, celui-là!
Le 4 novembre au soir!
Le quoi?
Le 4 novembre au soir!
Encore!
Le 4 novembre au soir! Le 4 novembre au soir!
Le 4 novembre au soir, on va avoir notre budget.
Bon, les gens qui connaissent pas ça, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent.
Oui, c'est
qui
vraiment
disent, quoi c'est ça? C'est Jean Chrétien qui annonçait des élections fédérales et qui serait le 4 novembre au soir. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe le 4 novembre, moi, je hurle ça partout où est-ce que je suis.
Exactement.
Donc, le budget qui était censé être en octobre, en passant, a été repoussé début novembre. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ça? C'est qu'on travaille très fort pour essayer d'avoir un budget moins catastrophique. Je ne sais pas si François-Philippe Champagne, ministre des Finances, va réussir, mais on s'attend à des déficits monstres conjugués avec une austérité parce qu'on a demandé un effort de 15 % de réduction de dépenses dans tous les ministères paramétriques.
Là, ça me fait rire, ça. Puis je suis d'accord avec Yasmine Adel Fadel qui mentionne l'austérité dépensière du Parti libéral du Canada.
C'est le pire des deux mondes.
Tu peux pas dire que t'es austère si t'arrives à 100 milliards de déficit, là.
Ben là, c'est ça. C'est que les libéraux ont un nouveau concept. comptable.
L'investissement.
C'est ça, c'est pas une dépense. Donc, il y a de ça à travers. En même temps, je pense que les gens appuient les investissements en ce moment en défense. C'est quelque chose qui n'a jamais été populaire, mais qui, en fait, depuis la guerre, probablement, et qui est redevenu populaire. Je pense que les gens sont capables aussi de comprendre qu'on est dans une crise sans précédent, qu'on était beaucoup à la remorque des États-Unis, qui était le pays plus puissant et plus riche au monde, puis c'était notre ami, ça tombait bien. Là, c'est plus notre ami. Donc, il y a des investissements, effectivement, là-dessus. Je vais leur donner. Mais cela dit, pour Mark Carney, d'avoir un budget où on a des déficits monstres et en même temps, on fait de l'austérité, tu as de quoi déplaire à tout le monde. Le NPD, est-ce qu'il va appuyer un budget avec de l'austérité? Puis est-ce que les conservateurs vont vouloir appuyer un budget avec des déficits de 100 milliards?
Clairement non. Fait que là, il reste à creuser le Québec. Ouais. C'est-à-dire le bloc.
Puis Stephen McKinnon, le leader parlementaire, donnait des entrevues pour la rentrée, puis il laissait pas beaucoup d'espoir qu'il allait donner des gros nananes au Québec. On verra bien si
François Blanchet. Ça tombera pas, par exemple, le gouvernement?
Bien, qui veut aller en élection,
c'est automne? Ouais, c'est ça l'affaire.
Puis là, je comprends, tu sais, on dit toujours que les Canadiens veulent pas aller en élection. En fait, on prend tellement la démocratie pour acquise qu'on trouve ça gossant, qu'on nous demande notre avis puis d'aller voter. Cela dit, c'est vrai que ça fait bien rien que 6 mois et on a eu une année absolument non productive à la Chambre des communes l'année passée. Donc là, on se dit, là, il faudrait peut-être qu'on adopte 2-3 lois, là, ici, là, c'est à un moment donné. Là.
Vincent qui écrit une chance que les libéraux ne sont pas mes banquiers, je serai en faillite.
Bien, quand tu ne dépenses pas ton argent à toi, hein, c'est sûr que c'est un peu différent. Parlant de budget.
Oui, vas-y donc.
Je voulais vous parler de votre budget. Non, je ne suis pas chroniqueuse économique, mais il y a une baisse du taux directeur. La Banque du Canada a annoncé ce matin une nouvelle baisse du taux directeur pour les taux d'intérêt. Ça fait une grosse différence hein, dans nos budgets familiaux quand on vient le temps de renégocier notre hypothèque. Clairement. Moi, je suis là-dedans, justement. T'sais, les gens qui ont acheté des maisons en pandémie, faites le calcul, ça fait 5 ans. Ding, ding, ding.
Hey, déjà.
Donc, mais ça, oui, absolument. On dirait que ça, c'était hier. En même temps, on dirait que ça fait 1000 ans. Donc, le taux directeur, on aurait pu... En fait, on se demandait... La plupart des économistes sont capables de vous dire, de vous prédire qu'est-ce que la Banque du Canada va faire, mais quand même, on est dans un moment spécial économiquement. Le taux directeur, quand l'économie ralentit, on le baisse. Donc, nous, les gens de notre âge, dans la tranche d'âge dans laquelle on se trouve, bien, on n'a jamais connu des taux d'intérêt très élevés. Quand j'ai acheté ma première maison, c'était 1 %
Moi
taux
aussi!
Taux fixe à 1 % extraordinaire.
Moi aussi, en plein crash boursier de 2008.
Et voilà!
Pour combien d'années?
5 ans.
Oui.
Donc là, tu es à veille de renouveler autrement.
Non, moi, je te parle de 2010. Là. Ça fait 15 ans de ça. Là. J'ai renouvelé plein de fois depuis. J'ai changé de maison. Cela dit, mon point, c'est qu'on n'a jamais connu ça, des taux d'intérêt élevés. Mais la génération de nos parents a acheté des maisons à 15, 18, 20 % de
mon
taux d'intérêt.
Mon grand-père, c'était au-dessus de 20 de mémoire. Ah, ils en parlaient. Mais anciens... les maisons valaient moins cher, sauf que...
Mes anciens beaux-parents, 19,8.
19,8?
Ils ont arrêté la construction. Ils construisaient à ce moment-là. On disait, hey, on n'a plus de cash.
Arrête,
on
sérieux?
Ouais. Mais tu rénoves pas, tu changes pas de maison quand les taux d'intérêt sont si élevés. Mais nous, c'est pas ça notre mindset, notre état d'esprit économique et budgétaire, parce qu'on a appris à consommer, à épargner, à dépenser avec des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Ça coûte pas cher d'emprunter. Mm-hmm. Là, ça fait un peu mal sur le budget. Quand tu regardes tes mensualités avec un 2 % de plus, ça fait une bonne différence sur le budget familial. Là, en ce moment, bien... puis quand, normalement, quand l'économie s'emballe, l'inflation s'emballe, là, on monte les taux d'intérêt pour refroidir les ardeurs de la consommation. Donc là, si on suit la logique, on regarde les taux d'intérêt, pas les taux d'intérêt, pardon, le taux d'inflation a augmenté au mois d'août. Donc si le taux d'inflation augmente, normalement, ce qu'on ferait en temps normal, c'est qu'on monterait les taux d'intérêt ou les maintiendrait. Mm-hmm. Là, étant donné qu'on a en plus de l'inflation, une récession qui nous pend au bout du nez, on peut dire merci notamment à Donald Trump et à la crise commerciale. Là, on a de l'inflation et un spectre de récession, c'est ce qu'on appelle de la stagflation.
OK, tu m'apprends un mot.
Oui, bon, écoutez, là, je ne suis pas économiste, alors je m'arrête ici, mais tout ça pour dire que malgré l'augmentation de l'inflation, on a une baisse de taux d'intérêt parce que le spectre de récession fait plus peur et plus dangereux, finalement.
C'est ce que j'allais dire, ça annonce une récession plus qu'une économie qui va reprendre de son envol.
Oui, puis l'autre chose, c'est que je pense qu'on s'est un peu habitué à l'inflation. C'est plate
à dire.
Oui,
c'est vrai, t'as raison.
Donc,
ça fait depuis la pandémie qu'on dit « Ah, le panier d'épicerie coûte plus cher de mois en mois ».
C'est comme si c'était
comme le coût
de
l'essence aussi.
Ouais.
On s'en est peut-être pas débarrassé, puis on n'est peut-être pas habitué au niveau de ceux qui en arrachent concrètement, avec tout ce qui est produit aussi, les tarifs imposés sur les produits congelés, les canages, les ci, les ça, ça va monter dans les prochains mois. Puis il y en a qui en arrachent énormément. Je pense que dans les banques alimentaires, c'est peut-être là qu'on prend un retard où l'habitude n'est pas.
Puis il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'impact. Mais c'est vrai que l'économie, ce n'est pas juste rationnel. Il y a une question émotive là-dedans. Quand l'inflation se met à augmenter, quand nos prix se mettent à augmenter, souvent les gens vont même augmenter leur consommation, bizarrement, parce qu'ils se disent ça va augmenter encore plus. Donc, on contribue, en fait, encore plus à l'inflation parce que si on n'acceptait pas de payer ce prix-là, bon, il y a des choses qui sont essentielles, probablement que l'inflation serait moins grande. Mais bref, tout ça pour dire que surveillez ceux qui ont renouvelé leur hypothèque. Si jamais vous êtes capable d'attendre une autre baisse, on s'attend à ce qu'il y ait une autre baisse de taux d'intérêt, bien, enfin, on verra ce que ça donne. Cela dit, je refais un lien avec la politique maintenant, étant donné que je ne suis pas chroniqueuse économique, pour dire que face à nos politiciens, il y a quand même des attentes par rapport à l'économie. C'est la priorité numéro un des citoyens en ce moment, coût de la vie, pouvoir d'achat, économie. Et les gens ont soif d'avoir des résultats. C'est très dur pour les gouvernements à travers le monde, pas seulement chez nous, de voir que finalement, notre qualité de vie, est-ce qu'elle s'est améliorée dans les dernières années? Puis ça, c'est toujours la question qui tue en politique. Est-ce que ça va mieux maintenant qu'on a passé 10 ans de libéraux fédéral, 6 ans, 7 ans de CAQ au Québec? C'est les oppositions puis les partis qui viennent s'opposer puis essayer d'apparaître comme le changement ont le beau jeu dans ce temps-là.
En effet. Je te parle de quelqu'un qui tentait d'incarner le changement, mais qui a de la difficulté, Sam Ahmad. Et on écoute ce que Bruno Marchand avait à dire à son endroit hier lors de sa conférence de presse pré-conseil.
Monsieur Ahmad est contre tout. Il est pourquoi, on ne sait pas trop, mais il est contre tout. Ça, c'est clair. Il nous a parlé de son projet de mobilité une fois. Ça a soulevé mille et une questions. Il n'est jamais revenu pour répondre aux questions. Alors, il est contre tout. Les autres sont tous mauvais. Il y a juste lui qui est bon. Pourtant, depuis quelques semaines, c'est pas ça qu'on voit. Alors, ça y appartient.
Excuse-moi. C'est parce que ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à la communication non-violente. Et c'est pas de la communication non-violente.
Ah,
en tout
non,
cas,
non.
Il est contre tout. Il ne donne aucune réponse. On est vraiment dans les absolus.
Oui. Ça va pas bien depuis quelques semaines. Donc, exactement. Sam Ahmad, hier, qui a demandé l'arrêt des travaux du tramway le temps que l'élection se fasse, en mentionnant que ce serait une élection référendaire sur le tramway. Il avait pourtant promis qu'il ne ferait pas ça. Jonathan Julien lui a lancé une pierre dans son sac ce matin en arrivant au Conseil des ministres en disant non, on n'arrête pas ça, les travaux du tramway. On avance, go, la CDPQ infra est là, puis c'est assez le niaisage. Sam Ahmad, viens-tu complètement de se planter avec cette sortie publique-là hier?
Je pense pas. Parce que quand on regarde les sondages, il y a une bonne partie de la population encore qui est contre le tramway.
T'as raison.
Les acteurs clés, les acteurs politiques sont en ce moment relativement alignés. La ville, la province, tout le financement, la caisse, la CDPQ infra. Donc, on a cette impression que là, on y va, on avance. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a une partie de la population encore importante qui est contre, et pas rien qu'un peu, là, très, très contre le projet. Donc, lui, il fait de la politique, là. Puis il veut se faire élire. Donc, il veut capitaliser sur cette colère-là. Par contre, pour tous les gens, c'est ça, qui ne sont pas nécessairement excités tant que ça par le tramway, puis qui n'ont pas pris leur carte de membre du club des chars ou du club du transport collectif.
Je fais partie de ceux-là.
Bien, moi aussi. Pour vrai, j'achète l'argument de Jonathan Julien. Ouais. Et j'achète pas tout ce que Bruno Marchand a dit.
Mais j'ai pensé à toi en entendant ça, parce qu'hier, au caucus, il y a Karine,
exactement
disais,
ce qu'on disait.
On est tanné. Il n'y a rien qui avance. Puis si on arrête ça maintenant, malheureusement, il va peut-être faire en sorte qu'on va devoir faire avec, pour utiliser l'expression, parce que sinon, on se rembarque dans des projets, on s'extensionne de 10 ans, il n'y a rien qui se passe.
Puis Bruno Marchand a été élu quand même à la dernière campagne électorale en étant pour le tramway.
Oui.
Sam Ahmad apporte un bon point. C'est vrai que Bruno Marchand a dit « je vais faire plein de modifications au projet ».
Oui, il avait mis des conditions, puis dans les conditions, il y avait l'acceptabilité sociale
qui n'est pas là. Par contre, il y a eu un rapport de la CDPQ Infra sur la mobilité à Québec. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Et là, il y a un alignement d'étoiles qui est important. Puis moi, je me dis « aboutissons à quelque chose ». Je me suis posé la question. Combien d'argent on sacrerait dans les vidanges? Je n'ai pas le calcul avant que tu me le
demandes. Oui.
Mais est-ce qu'on va sacrer de l'argent dans les vidanges si, par exemple, Sam Ahmad gagne sa campagne, et là, on met fin aux travaux du tramway. Puis c'est des travaux qui sont commencés, là.
J'ai une réponse pour toi. Je te dirais que, tu sais, normalement, quand l'élection va avoir fait, c'est au-dessus d'un milliard de dollars qui va avoir été dépensé dans le projet. Ceci dit, il y a énormément de travaux qui sont souterrains qu'il aurait fallu que la ville fasse.
De toute façon.
Par contre, si tu arrêtes le projet, le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral, bien, le fédéral n'a pas encore décaissé parce que c'est sur facture. Le gouvernement du Québec va-tu dire, hey là, écoutez, je viens de payer vos infrastructures souterraines, je ne les ai pas payées aux autres villes. Décaisse puis amène ça là.
Sa maman,
sa prétention, c'est de dire non, je vais négocier avec le gouvernement. C'est pour ça aussi qu'il est arrivé avec un SRB parce que dit le SRB avait besoin des mêmes travaux souterrains que le
Et
tramway.
Voilà. Ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que, tu sais, je regarde par exemple sur Laurier, travaux préparatoires, oui. On élargit. C'est sûr que si on fait des travaux pour un SRB, ça peut pas servir pour un tramway, parce que le tramway, c'est plus compliqué. Mais si tu fais des travaux pour le tramway, ça peut servir pour le SRB. Oui. On aura peut-être un peu d'overkill, par contre, sur ce qui a été fait.
En plein ça. Et le SRB est sur une dalle de béton. Donc, si dans le futur, tu veux transformer ça en tramway, tu as juste des rames à mettre et c'est fait. C'est pour ça qu'il se lance dans le SRB, Samamad, parce que je sais qu'il y a beaucoup de partisans tramway no way qui disent... Respect citoyen, Stéphane Lachance, lui, il propose juste des autobus. C'est ça que je veux. J'en veux pas anyway de transport structurel. Mais dites-vous que si on arrête tout, c'est $1 milliard qui est en jeu.
Non, c'est ça. Donc, si votre argument principal, c'était l'argent, là, on est rendu à un point où il faut arrêter. Là, parce que chaque délai, chaque débat qui recommence, on continue de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc ça, si c'est ça votre argument, arrêtez. Si votre argument, c'est que ben vous êtes contre le transport collectif, ben là, je veux dire, à un moment donné, il faut arriver en 2025.
Bien, à un moment donné, il va y avoir du transport collectif, c'est clair. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un partisan du SRB. J'étais au RTC au moment où on avait justement planifié le SRB, traversait même via le pont de Québec, allait rejoindre jusqu'au complexe Desjardins-Lévis. Je trouvais que c'était un projet extraordinaire. On passait par Lac-Charest, on développait cette verrue urbaine-là. Je trouvais ça super beau. Donc moi, quand ça me revient qu'un SRB, j'ai tendance à être pour parce qu'on va desservir les banlieues. Mais ceci dit, là, je ne voterai pas en fonction SRB tramway. Je vais voter en fonction du plan global parce que il va en avoir un système. Il y a des experts de la CDPQ Infra qui sont penchés, qui ont dit ça prend le plan cité, pas juste cette ligne de tramway-là. Mais à un moment donné, là, je ne me battrai pas contre l'irréparable. Si ça se fait, ça se fera, puis ça sera comme ça.
Puis un contrat aussi qui a été signé sur le matériel roulant, là.
Exactement, avec Alstom. Ça aussi, c'est de l'argent qu'on n'a pas encore décaissé, mais un contrat de 584 millions de dollars, il y aurait des pénalités. Donc, en effet.
À suivre, mais bref, je trouve que ça commence à être assez de niaisage.
Oh, vraiment, faut arrêter de faire une élection référendaire. Ça a été fait en 2021. Ça, je suis d'accord avec Bruno Marchand. Ça a été fait en 2021. 2025, votez pour la plateforme en entier des candidats municipaux, selon moi, ça va être un meilleur vote que de le faire. Je veux-tu un tramway, j'en veux pas un.
Je pense que les gens sont encore aigris, ou encore ce qui reste, c'est le fait de se dire, OK, finalement, on nous l'a enfoncé dans la gorge. Oui. Et ça remonte à
bon
Anne Guérette et Régis Labombe qui s'obstinent, Régis Labombe qui la traite de vieillerie avec son tramway.
T'as 100% raison.
Finalement, je pense que c'est ça qui est resté dans
les
entrailles.
Je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil, OK?
On n'a pas le choix.
C'est fait.
On s'est fait avoir, tiens, pour ceux qui ne voulaient pas ça.
Soyez fâchés si vous voulez. Puis vous pouvez. En passant, on vous dit pas pour qui voter, hein?
Non.
C'est pas ça. Puis si vous voulez voter avec votre colère, puis vous, il n'y a aucun problème.
Écoutez, moi, depuis le début, je vous dis juste, allez au-delà un peu de votre colère, puis regardez les programmes. Puis vous voterez pour le meilleur programme.
Absolument.
Ça se peut que ça soit Stéphane Lachance, ça se peut que ça soit Claude Villeneuve, ça se peut que ça soit Jackie Smith, Bruno Marchand, Sam Hamad. Mais votez pour ça, de grâce. Sortons de cette chicane-là.
Bien dit.
Parlant de chicane, il va peut-être en avoir à la commission Galant parce que c'est enfin l'enfant prodigue de la transformation numérique, celui sur qui on aurait dû compter et croire tous les mots qu'il a dit, c'est-à-dire Karl Malenfant. Et je te laisse entendre avant de parler de Karl Malenfant. Nathalie Tremblay, l'ex-PDG de la SAC, à la commission Galant tout à l'heure lorsqu'elle a fait cet aveu-là.
Je n'ai pas le recul nécessaire pour répondre à cette question. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de faire la part des choses. J'ai besoin de continuer de suivre vos travaux pour être en mesure de changer cette réponse s'il y a lieu. Donc, aujourd'hui, avec ce que l'état dans lequel je suis aujourd'hui, ma réponse demeure qu'au 14 janvier 2022, lorsque j'ai quitté pour la retraite, j'avais confiance en Karl Malenfant.
J'ai de la misère avec ça.
Est-ce qu'on y croit?
Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Ben, fait, là. Parce que là, elle dit, là, faut que je prenne du recul, tout ça. Premièrement, je veux dire, ça fait longtemps, ça fait depuis le printemps passé qu'on sait qu'il va y avoir une commission.
Oui,
t'as été PDG, tu vas être convoqué, excuse-moi, le recul, t'aurais dû...
Clairement, on comprend qu'elle savait de l'info depuis aussi. Là.
Ben oui, là. Donc, mais en même temps... C'est quoi, stratégiquement, là, mettons, vous êtes, on n'est pas avocat, là, mais mettons, on est ses avocats puis on la prépare. Là. t'es aussi bien de dire que t'avais confiance. Parce que c'est ta seule défense.
C'est vrai. Dans le fond, t'as raison.
T'sais, qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre? C'était sous sa responsabilité. Elle était imputable.
Parce que sinon, elle dit « j'ai été incompétente, j'ai pas assez poussé ».
Donc voilà.
Alors, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle avait confiance en Karl Malenfant.
C'est la moins pire des défenses, à mon avis, pour elle. Donc, on surveille ce témoignage de Karl Malenfant. On a eu des bons indices dans les dernières semaines, derniers mois, sur ce qu'il allait dire de toute façon, parce qu'il a fait beaucoup d'entrevues, il a fait des publications sur les médias sociaux. Est-ce que le juge Galland va beaucoup le challenger? Là, c'est sûr, le procureur, oui, mais ce matin, j'écoutais l'ancienne PDG et est arrivée avec un paquet de recommandations. Elle a besoin de recul pour parler de Karl Malenfant, mais elle avait déjà pris pas mal de recul sur les recommandations qui devaient être dans le rapport. Il y en avait des bonnes en passant. Okay? Elle avait quand même des bons points. Mais le juge Galland l'a challengé sur plusieurs choses. Il n'achète pas tout ça en bloc.
Non.
Donc, est-ce que le juge Galland va aussi, disons, être... j'ai pas envie de dire impatient, mais j'ai juste des gros mots qui me viennent en tête. Mais il en laissera peut-être pas beaucoup passer avec Karl Malenfant.
Je pense que justement, ça va être... Moi, je m'attends à une petite empoignade. Une ou deux petites empoignades entre Karl Malenfant, qui a un égo démesuré, et le commissaire Galland.
Mais je pense que les gens s'attendent à ça. S'il ne fait pas ça, le commissaire Galland va se le faire dire aussi. Mm-hmm.
Peut-être, mais il est censé être quand même assez imperméable à l'opinion publique. Donc moi, je pense qu'il va y aller avec son cœur et sa tête. Voilà.
Alors ça va être à suivre. On en parle évidemment dans le caucus. Iaccarini demain. Antonine Iaccarini, merci beaucoup.
À demain.
Après la pause, on a un homme extrêmement généreux qui vient s'asseoir avec nous, c'est-à-dire Pierre-Thomas Choquette de la famille Choquette, qui a parti une campagne de financement qui va permettre à des personnes itinérantes de trouver un toit. Ils ont ramassé plus de 3 millions de dollars, Pascal. Fait que dans cette ère d'actualité un petit peu plus négative, avait le goût qu'on se paye du bon temps avec Pierre-Thomas.
3 millions! C'est énorme! Ça me fait capoter.
3,2 millions.
Puis je veux savoir si demain, là, nous, on réussit à ramasser cette scène-là. Ouais. Premièrement, il a réussi. Est-ce qu'ils ont demandé à avoir des ventilations de ce qui va être fait avec le 3 millions? Est-ce qu'ils veulent un droit de regard parce qu'ils ont réussi à amasser ces sommes-là?
On regardera ça avec
Pierre-Thomas. Ça va être intéressant.
Ah, vraiment. Et par la suite, tu nous as préparé également un dossier, Pascal, parce qu'on va parler d'emploi ici dans la région de la Capitale-Nationale.
Et d'économie en général. Ouais. Est-ce que nos secteurs d'activité sont actuellement en danger aussi avec les tarifs? Mm-hmm. Est-ce que ça continue de rouler?
Ça va être très intéressant à suivre. Donc, restez des nôtres à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Radio! Boulevard 102.1.